France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Émile Naoumov, je suis née le 20 février 1962 à Sofia. Je suis musicien, pianiste, compositeur et enseignant.
Hier, Émile Naoumov se souvenait de ses leçons auprès de Mademoiselle Boulanger, mais son père, qui travaille en tant que médecin à Berlin-Ouest, lui manque cruellement. Retour aujourd'hui sur cette partie de son enfance et de son adolescence.
Je dois dire que les sièges en plastique des trains corail ont vu beaucoup de mes pleurs. Tellement que pratiquement à chaque retour de Berlin, je ne voyais pas la gare de l'arrivée à Paris parce que j'avais mes yeux bouffis, littéralement bouffis de me les frotter contre les sièges du train. Et tellement il me manquait. Et alors, comme jusqu'alors, je n'avais pas choisi d'y être ou pas, et où, et comment, et pourquoi, à part la musique. J'étais guidée par mes parents, et je me souviens avoir demandé d'aller habiter avec papa, d'arrêter avec Mademoiselle Boulanger. Mademoiselle Boulanger a pris sur elle, et elle m'a laissé rentrer à Berlin, et mon papa m'avait inscrit à la Hochschule à Berlin, à l'école de musique. Il m'a fallu une leçon avec une professeure pour comprendre tout ce qu'il me manquait. Mais c'est fou quand même. Et pourtant, mon père me manquait plus que Mademoiselle Boulanger. Il me manquera toujours plus que Mademoiselle Boulanger. Mais là, c'était une décision que j'ai prise. Et je me souviens avoir vu mon papa après la leçon. Il m'a dit « Ah, c'était comment ?» Et je lui ai dit « Écoute, je crois qu'il faut que je rentre auprès de mademoiselle. » Et je crois que ce jour-là, c'était ma décision. Alors que jusque-là, je ne faisais que suivre, là on me disait d'aller.
Est-ce que votre père ou vos parents, d'une manière ou d'une autre, peser le sacrifice que ça représentait pour eux, que d'avoir quitté leur pays, que de s'être séparés pour que vous puissiez avoir ces cours avec mademoiselle. Est-ce que aussi c'est quelque chose qui a pesé et dont vous vous sentiez peut-être un peu lourd, responsable dans ces cas-là? Est-ce qu'on a le droit de choisir?
C'est-à-dire que c'était un doux euphémisme que de dire que je n'étais pas psychiquement au courant de tout cet poids de leur sacrifice, entre guillemets, qui était doublé d'un personnage essentiel dans la vie de Mademoiselle Boulanger et qu'elle me mettait tout le temps en comparaison négative avec, qui était Lily. Comme elle était 6 ans plus âgée que Lily, elle enseignait à Lily tout ce que Forêt lui enseignait à elle.
Il faut dire aux auditeurs que Lily est donc sa petite sœur, compositrice, et qui est morte de façon prématurée.
Bon, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est morte à 24 ans. Mais je veux dire que 60 ans plus tard, Mademoiselle Boulanger, c'était à chaque leçon, elle me donnait des cours, des exercices d'harmonie qu'elle donnait à Lily. Et elle me disait, mais enfin c'est étonnant, Lily ne s'est jamais trompée comme toi. Lily, ceci, Lily ne faisait jamais de faute d'harmonie, intuitivement. Bon. Et donc j'étais la Lily imparfaite. c'est comme ça que je me sentais, parce qu'à force qu'on vous le dise, vous vous rendez compte. Puis surtout qu'il y avait quand même les bus de Lily sur chaque cheminée, il y en avait, avec des fleurs fraîches à chaque fois. Donc c'était un peu une sorte de temple. Je dois dire aussi que la musique de Lily est incroyablement, mystérieusement belle. Il faut dire les choses comme elles sont. J'avais l'impression de décevoir mademoiselle par rapport à Lily, et j'avais peur ainsi de décevoir mes parents par rapport à leur sacrifice. Et ça me pesait très lourdement sur les épaules. Et bon, enfant, le psychisme est différent, mais la manière de voir le monde aussi. Au fond, il y avait une sorte de gravité beaucoup plus grande que ce qu'on pense que les enfants ont, mais enfin, bon, peut-être que c'était moi. Heureusement que je pouvais déverser beaucoup de ces émotions intenses dans ma musique, à moi, je veux dire. C'était quelque chose de très sain, quelque part, parce que sinon, c'était un trop-plein.
Finalement, vous, entre le portrait de Gilles de Watteau, entre votre piano qui est un correspondant, évidemment, c'est vrai qu'il y a des relations avec des hommes et des femmes, surtout des femmes d'ailleurs, mais on n'a pas l'impression, Émile Naoumoff, que vous ayez eu dans cette adolescence tellement de camarades, tellement de relations aux autres dans la conversation. On a le sentiment quand même d'une vie certes très entourée, mais aussi très solitaire, où vos confidents sont des compositeurs, un piano, un tableau.
Oui, c'est vrai. Mais c'est fou parce que pour moi, il n'était pas mort. Je parlais à Gilles. Et je parle tout le temps au compositeur. Pourquoi t'as pas fait ça? Ça aurait été amusant d'essayer ça. Je me souviens un jour, mon Dieu, vous savez que mademoiselle me faisait travailler quand même les préludes des fugues chaque semaine, un différent du bien tempéré. Et il fallait que les deux premiers jours, je les copie à la main, sur les clés, en partition ouverte. Et ensuite, les deux jours suivants, il fallait que je les copie à la main, mais de tête, sans l'original et sans le clavier. Et c'est uniquement à la fin de semaine que j'avais le droit de jouer le prélude des fugues à partir de mon écriture. Et ensuite, c'était le suivant. Et quand on avait fait les 48, on recommençait. Donc oui, c'était une enfance assez solitaire.
Et une éducation un peu 19e, en fait.
C'est-à-dire que toutes mes professeurs autour d'elle étaient, elles-mêmes, des filles du 19e siècle. D'où les clés. Grand absent, à part Lily, tout en étant très présent dans la vie de mademoiselle, c'était Dino Lipati. Et donc, on écoutait ensemble les 45 tours. Elle me parlait beaucoup de son rubato. Et moi, j'ai fini par croire, mais elle ne l'a pas dit comme ça, que c'était une sorte de Robin des Bois qui vole les riches pour donner aux pauvres. Parce qu'on nous a toujours dit quand on était enfant, garde le tempo, n'est-ce pas? Et le rubato, c'est en fait s'autoriser à sortir du tempo, donc de voler du temps. Mais elle me disait qu'il le rendait à chaque fois structurellement dans l'œuvre, et que ce n'était pas juste un zigzag, mais un emprunt et un rendu.
Est-ce qu'il y avait aussi cette dimension vocale? Est-ce que vous chantiez? Est-ce que vous...
Si je chante. Si, la, sol, mi, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, si, la. Si, do, ré, mi, ré, do, si, fa, mi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne chante pas, je solfie. C'est quelque chose d'autant plus amusant à découvrir depuis que j'enseigne aux États-Unis maintenant, les dernières 22 années, c'est que personne ne fait du solfège ici. Ils jouent les sons par les instruments, mais ils ne les disent pas, ils ne les mâchent pas, ils ne les goûtent pas avec la bouche. Alors qu'en solfège, on peut tout goûter à la bouche. Ré, mi, fa, sol, fa, mi, fa, ré, si, si, la, sol, fa, la, c'est do, ré, do, c'est do, la, fa, fa, mi, ré, do. Donc moi, en fait, je passais beaucoup de temps à solfier et à chanter.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors dans ce salon aussi, il y a les plus grands qui passent. On sait que Mademoiselle Boulanger a enseigné aussi bien à Quincy Jones d'ailleurs qu'à Piazzolla et aussi évidemment à des musiciens peut-être plus classiques. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un aréopage extrêmement diversifié. Qu'est-ce qu'il vous en reste, vous, de ces grandes rencontres, des personnages comme ça qui sont passés chez elle et que vous avez eu la chance, Emile Naoumoff, de rencontrer?
Alors, je ne les ai pas rencontrés. J'ai travaillé avec eux. Et c'était très important pour Mademoiselle parce que je n'étais pas là en démonstration. Je vous dirai pourquoi. La première rencontre, c'était Yehudi Menuhin. Alors, j'ai beau parler français phonétiquement avec maman depuis ma naissance. J'ai composé mon concerto quand j'avais 8-9 ans et à 10 ans pour mon anniversaire. Elle a invité Menuhin pour le diriger. Et moi au piano. Alors moi, je savais qui était Menuhin. Oh mon Dieu! Et alors donc, la répétition se fait, le concert se fait. Et à tout moment, c'était du travail d'artisanat bien fait. L'orchestration, la mise en place des choses, ce n'était pas... c'est un enfant, alors on comprend qu'il est des gaucheries... C'était plutôt extraordinairement intéressant parce qu'on a fait dans ce concert, le programme, c'est Mademoiselle qui l'avait planifié ainsi, c'est le premier concerto de Beethoven, mon premier. Et entre les deux, pendant que les gens allaient se reposer à l'entracte, on jouait la deuxième sonate de Brahms en violon-piano pour elle. Elle était la seule dans la salle et nous on jouait la sonate de Brahms avec ce mouvement lent ré majeur inoubliable. Fa mi fa la ré do ré fa mi. Il avait une manière de jouer les tierces. Ah, presque ensemble et presque juste. Très humaine.
France Musique, les grands entretiens d'Emile Naoumoff.
Vous aimiez être en public?
Disons que... En musique, oui.
Être avec un orchestre, sur scène, etc. C'est quelque chose... Que, c'est une des dimensions aussi qui était pour vous séduisante en tant qu'interprète ou créateur quand vous jouez vos propres œuvres.
Enfin, à l'époque, je ne faisais pas trop la différence entre les deux, je dois dire. Disons que je me souviens très clairement de ma maman tremblant de peur au moment d'entrer sur scène à la Philharmonie de Berlin, parce que c'était à l'époque une des premières salles qui avait, comme la Philharmonie maintenant à Paris, vous savez, le public autour, et pas le podium, et avec le reste comme une sorte de drôme. Et je ressors de la scène, et ma maman était au même endroit, où elle m'avait lancé sur scène. Elle m'attendait après la scène, et m'a dit « Ça va, tu n'as pas eu trop peur ?» Je me souviens avoir dit « Mais pas du tout, c'était très confortable, tout le monde était nous entouré. » Alors du trac, j'en ai beaucoup dans la vie quotidienne, mais jamais quand je fais de la musique et jamais en public. Jamais de trac. J'ai jamais eu de trac. J'ai une sorte de jubilation intense, une sorte d'impression de vivre un moment privilégié pour lequel tout ça se justifie, toute une vie dans chaque note. Non, non, au contraire, je dirais que je suis très à l'aise en public, en musique, avec orchestre, musicien de chambre ou même seul. Enfin, je suis pas seul parce que je suis avec la musique.
Difficile de choisir. Moussorgski, une larme.
Vous allez, Émile Naoumoff, en parallèle aussi, vous retrouvez au Conservatoire de Paris et à l'École normale. J'aurais aimé qu'on parle de ces deux différentes expériences au Conservatoire de Paris avec Leila Gousseau et Pierre Sancan, et à l'École normale avec Pierre Dervaux, où là, ce n'est pas du piano, c'est de la direction d'orchestre.
Oula.
Qu'est-ce qui vous pousse à aller dans ces directions-là?
Écoutez, c'est simple. J'avais une situation à l'époque qui était que Mademoiselle Boulanger était la raison pour laquelle j'étais à Paris. Mais je ne pouvais pas avoir de titre de séjour. Et donc, je me suis inscrit au CNSM, sinon je ne pouvais plus rester à Paris. Alors, j'ai eu une prof extraordinaire qui était la seule mariée. Parce que toutes les autres étaient des demoiselles, hein, je veux dire, avec toutes ces guerres, faut dire. Qu'est-ce que j'étais heureux de travailler avec Geneviève Joie? C'est une femme lumineuse. Mais alors, la joie de vivre, elle, hein. C'était pas un cierge comme mademoiselle, elle, c'était le contraire. Et puis alors, elle m'avait donné une leçon de musique de chambre fantastique le jour à Gavot, où j'ai tourné les pages pour la sonate de Franck. Et elle me dit, écoute, Émile, tu vas revoir, la musique de chambre, c'est jouer uniquement les notes qu'on entend.
Sur la direction d'orchestre, Émile Naoumoff, qu'est-ce qui vous a tenté dans cet apprentissage avec Pierre Dervaux?
Pierre Dervaux, mon Dieu. Rien que d'évoquer son nom, j'entends tant de choses dans ma tête. Je dois dire que la direction d'orchestre, c'était une sorte de fantasme qui correspondait à ces séances que papa me faisait avec les symphonies de Tchaïkovski en disque. Il y avait quelque chose dans la musique symphonique que je ne pouvais pas trouver au piano, quelle que fût la transcription que j'y mettais. Et ce que j'aimais beaucoup avec Pierre Dervaux, c'est qu'il était l'antithèse de Mademoiselle Boulanger. Vous savez qu'il était profond, mais gaulois. Que de souvenirs. Mais enfin, on ne peut pas dire que c'était un grand esthète, mais il avait une connaissance de la machine que l'orchestre, je veux dire. Magnifique. Au fond, diriger, ce n'est pas seulement de la musique, c'est convaincre par une conviction et un geste, justement. C'est enseigner, c'est en le parlant, jouer, c'est en le jouant, et diriger, c'est en l'indiquant quelque part.
Est-ce que lorsque Mademoiselle meurt en 1979, vous vous sentez orphelin et par la même occasion dépositaire de quelque chose dont vous n'avez pas d'autre choix que de le léguer et de le transmettre à votre tour et donc de l'enseigner?
En tout cas esthétiquement, en tout cas artistiquement, en tout cas éthiquement. Je me souviens d'Henri Dutilleux, la dernière fois où je l'ai visité, je lui ai présenté ma fille qui était adolescente à l'époque, Nadia. Il lui a serré les mains et il lui a dit « Servez la musique honnêtement ». Et je pense que quelque part, Mademoiselle Boulanger, c'était ça aussi, c'est servir la musique honnêtement. Elle ne m'avait légué rien au point de vue palpable. Uniquement des souvenirs d'avoir passé des heures autour de Stravinsky, Schubert, Beethoven, Monteverdi, etc. L'émerveillement, en fait, c'est ça. Et le dernier été, c'était l'été donc 79, elle était à Fontainebleau, elle a tenu à y être alors qu'elle était alitée. Et je faisais un peu l'aller-retour entre les élèves et elle. À la dernière représentation de ce qu'on faisait, Mademoiselle tenait à ce que nous chantions le terzettino de la fin de Cosi, du premier acte, où les maris, feignent de partir pour voir si leurs épouses, jeunes épouses, seront fidèles. Ils essaieront de les séduire habillés autrement. Et Mozart fait croire que vraiment il y a une séparation, alors qu'en fait c'est du vaudeville. Et donc nous sommes allés dans les appartements de Mademoiselle à Fontainebleau. Elle était alitée dans l'autre salon, on la voyait pas. Et j'ai dit on va chanter pour vous le terzettino de Cosi, et on l'a fait avec les élèves. Et je joue au piano les tierces. Et puis après, je suis allée la voir et elle m'a dit des choses terriblement difficiles à comprendre parce que, bon, j'étais au bout de la... C'était quoi, 9 ans et demi de tous les jours, c'est le dernier jour, pas de vacances, etc. Et elle me disait, tu sais, mon petit Emilka, je sais que tu me dois beaucoup, mais je t'en dois bien plus. Et quand elle m'a dit ça, j'entendais, mais je ne traduisais pas. C'était des sons.
Thank you.
C'est sur cet extrait de Così fan tutte que se referme le 4e épisode des Grands Entretiens avec Émile Naoumoff. Merci à Christelle Vino et la radio WFIU de Bloomington, Indiana. Équipe de réalisation, Lionel Quentin, Jean-Louis Deloncle, Marie Le Peintre et Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.